L'histoire de l'île-dieu, c'est le nouveau livre de l'historien ilais Maurice Hessel, paru aux éditions La Geste. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Ce nouveau livre, c'est le numéro combien? Parce que tu en as écrit pas mal tout de même pour parler de l'île-dieu.
Disons une quinzaine. Peut-être deux quand même qui ne sont pas de l'île-dieu. C'est un que j'avais fait sur le pays du Pont-Dieu. C'est un, en même temps un recueil d'images et de visites du Pont-Dieu par localité, avec Jean-Pierre Arcille, qui avait été un excellent dessinateur et qui m'avait illustré cet ouvrage.
15 livres sur l'île-dieu, tu as toujours des choses à raconter, des anecdotes à raconter dans ces livres.
C'est rare si d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, on n'entend pas des choses nouvelles sur l'île-dieu. Et puis il y a des choses qui n'ont jamais été dites encore. Parce que, si tu veux, les ouvrages ont une certaine dimension que les éditeurs imposent. Et je ne peux pas dépasser un certain nombre de pages. Donc, il faut quelquefois que je restreigne. Mais ça ne m'empêche pas, dans un autre ouvrage, d'en parler. Et il y a 200 pages, autant d'illustrations, un très beau papier. J'ai fait ça sur la forme d'un très beau livre qu'on peut offrir.
Tu es d'accord si je te dis que dans ce livre, le lecteur peut connaître l'île-dieu de ses origines à l'avenir?
De ses origines à nos jours.
Mais il y a une partie tout de même à venir de l'île-dieu.
Ah, une partie à venir, de toute façon, il le suppose, il le perçoit à travers les différentes époques qui ont marqué l'île-dieu. Il voit à peu près dans quel sens l'île-dieu peut partir.
L'île-dieu, comment vois-tu cette île dans un avenir proche?
C'est quand même assez délicat, suivant les points de vue. Dans un avenir proche, je pense que le tourisme aura une importance de plus en plus grande. La pêche, il faut qu'elle s'accroche. Je pense qu'il y aura toujours un élément de pêche à l'île-dieu, car les pêcheurs sont absolument conscients et de leur pêche. Ils sont amoureux de leur métier. Et puis, ils essayent toujours, quelles que soient les circonstances, de s'adapter aux règlements du jour.
De toute façon, c'est grâce à la pêche aussi que le tourisme vient sur l'île-dieu.
Absolument.
Ils aiment bien découvrir cet univers.
Un port sans bateau amènerait beaucoup moins de touristes à l'île-dieu.
L'agriculture pour toi, pour l'île-dieu, c'est important?
Ah, c'est très important. Je suis heureux de voir que l'agriculture a repris. Pendant les siècles passés, une agriculture modeste permettait à l'île de s'entretenir, de se nourrir. Mais il n'y avait pas toujours les techniques actuelles de culture et le terrain approprié pour... On se réservait souvent à faire certaines cultures, mais pas des cultures générales qui permettent de nourrir tout le monde.
À découvrir dans ce livre, période historique, antiquité, haut et bas Moyen-Âge, époque moderne, révolution, époque contemporaine et de nos jours, pour toi, d'un point de vue historique, quelle époque est la plus intéressante?
Il y a plusieurs époques intéressantes, en particulier celle du Moyen-Âge, l'époque des monastères. Et puis il y a eu aussi l'époque tragique, l'époque des invasions de l'île-dieu. L'île-dieu a souffert pendant des siècles de multiples invasions qui ont marqué son territoire. Ce qui était à l'origine d'abord du vieux château a été par la suite, le château d'ailleurs lui-même, c'est un élément incontournable de l'histoire de l'île, car il représente non seulement un élément défensif, mais aussi c'est celui qui a marqué la sauvegarde de l'identité insulaire.
Dans ce nouveau livre, tu parles du vieux château, forcément.
Oui, j'en parle, oui. J'ai fait un livre particulier sur le vieux château, mais comme je n'ai pas toujours la place de mettre une histoire complète, j'en ai parlé aussi dans ce livre. J'ai même mis quelques illustrations, car ce livre nouveau est... à cette particularité, c'est d'avoir beaucoup plus d'illustrations que les précédents.
Pour toi, c'est important d'illustrer tes écrits avec ces photos?
Mais bien sûr, ça accompagne les écrits. De toute façon, pour moi, j'ai toujours déploré ne pas avoir la possibilité autrefois d'inclure beaucoup d'illustrations dans mes ouvrages. Et là, c'était l'occasion unique de pouvoir illustrer et mettre à la portée de tout le monde. Parce que ça peut être rébarbatif pour un enfant, pour une personne qui n'a pas une instruction poussée. Ça peut être rébarbatif d'écouter sans arrêt ou de lire sans arrêt des textes assez ardus ou alors des références qu'il ne comprend pas. Tandis que là, j'ai voulu en même temps faire quelque chose de clair et illustrer par des photos. Et la photo, l'illustration, permet, et est toujours appropriée au texte. Et ça permet tout de suite, même celui qui lit, il peut en même temps rêver en regardant la photo.
Des photos du vieux château, on l'a bien compris. Également, une photo de la citadelle avec le pont-levis levé. Tu l'as trouvée où, cette photo ?
Oh, ça m'avait été donné par un collectionneur. Oui, c'était à l'époque de l'occupation allemande.
Simple ou compliqué de retrouver tous ces écrits, mettre en forme ces écrits et retrouver ces photos pour ce nouveau livre ?
Ben, c'est-à-dire que j'avais pas mal de photos à la maison. J'ai eu aussi l'aide d'amis qui possèdent, parce qu'on n'est pas, on n'a pas la science infuse, ni nous ne sommes pas une médiathèque particulière. Il est difficile d'obtenir toutes les illustrations qu'on veut pour un texte important. Donc, j'ai eu recours à quelques amis qui m'ont prêté des photos qui ont illustré parfaitement mon texte, mais aussi j'avais énormément de photographies, d'illustrations de certaines époques, des textes concernant les monastères, des écrits concernant les personnages illustres qui ont marqué la vie de l'île-Dieu. Et tout ça, c'est en rapport avec les événements que je raconte.
Les églises, c'est une part également importante de ce livre, l'église de Saint-Sauveur et l'église de Port-Jeanville.
Oui, mais particulièrement celle de Saint-Sauveur qui a été pendant des siècles le pivot de la foi religieuse à l'île-Dieu. Il y a eu d'abord les monastères, il ne faut pas oublier aussi que avant l'église Saint-Sauveur, il y a eu le monastère Saint-Hilaire, et qui a commencé à donner les premiers éléments de la vie religieuse à l'île-Dieu. Et puis s'est formé ensuite le prieuré de Saint-Sauveur, et puis qui a accompagné en même temps le deuxième monastère. Et lorsque le deuxième monastère a été détruit par l'incendie au XVIIe siècle, l'église Saint-Sauveur a continué sur sa lancée, à titre de paroisse, à administrer les fidèles. Souvent, du temps du monastère, l'église, la paroisse et le monastère étaient en communion constante.
En remontant dans ce livre, tu parles également des Vikings. Ces Vikings étaient très importants pour l'île-Dieu.
C'est-à-dire, les Vikings, ils ont une histoire beaucoup plus lointaine. Car si on veut se rapporter au nom de l'île-Dieu, qui s'appelait autrefois Insula Oya, il faut dire que le mot Oya a une origine beaucoup plus lointaine qu'on se l'imagine, puisqu'elle se rapporte à des invasions, ou du moins des raids accomplis par les prédécesseurs des Vikings, les Scandinaves, au début de notre ère, et qui venaient aussi à la recherche de l'étain et puis du commerce du blé. Ils sont venus à l'île-Dieu, pourquoi ? Parce que l'île-Dieu a toujours été un point névralgique important et qui recevait toutes les flottes marchandes qui venaient du sud et qui obligatoirement devaient passer par l'île-Dieu pour faire ce qu'on appelait des rafraîchissements, c'est-à-dire pour prendre de l'eau, pour prendre des vivres. Et c'était important à l'époque de la voile. C'est pas comme aujourd'hui, avec les moteurs, on va partout rapidement. Tandis que là, les navigateurs, les voiliers devaient obligatoirement passer par l'île-Dieu et ils faisaient leur rafraîchissement là-bas sur l'île. Et c'est ainsi que l'île, c'était un point stratégique. Ça permettait en même temps, avec des intentions plus ou moins bonnes, de pouvoir contrôler la navigation et quelquefois même en tirer profit.
Point stratégique aussi pour les deux guerres, 14-18 et 1939-1945.
Ah, mais c'est-à-dire la guerre de 14-18, elle n'a pas vu le. Elle a vu surtout des scènes terribles de naufrage qui nous ont beaucoup marqués. Et à cette époque-là, et à cette occasion d'ailleurs, eh bien, on peut louer la vaillance des sauveteurs français, et il est en particulier, et qui ont recueilli énormément de naufragés, et en particulier l'épisode de la Norvège, où moi-même j'avais un grand-oncle, mec, qui a survécu heureusement, mais qui était parmi justement les sauveteurs.
Et la guerre 39-45, comment ça se passait sur l'île-Dieu?
Ben, la guerre 39-45, elle a d'abord débuté par le passage des Polonais et l'armée polonaise qui a emporté la plupart des hommes qui subsistaient pour le sud. Et puis, aussitôt après, eh bien, nous avons eu les Allemands qui sont arrivés en juin 40 et qui ont imposé après leur statut. Pendant l'occupation allemande, bon, c'était pas des SS qui tenaient l'île-Dieu, c'était des mobilisés, des hommes mobilisés de l'armée allemande. Alors, tant bien que mal, ils ont essayé, surtout au début, ils ont essayé de ne pas commettre trop d'impairs envers la population. La population, bien sûr, ne les aimait pas, mais on était obligé de les supporter. On ne pouvait pas faire de résistance à l'île-Dieu. L'île-Dieu est trop petite. On n'allait pas se cacher dans les grottes. Ça n'a pas de sens parce que la mer était là. Hein. Bon, eh bien, on ne pouvait que supporter l'occupation. Alors, les gens la supportaient autant qu'ils le pouvaient. Il y avait donc des usines. Les usines, il fallait bien qu'elles tournent. Et ces usines profitaient aussi, malheureusement, à l'occupation allemande, car ils exportaient des conserves qui étaient faites chez nous, mais ça permettait aussi à beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières surtout, de travailler sur l'île. Alors, pendant l'occupation, eh bien, tant bien que mal, on a essayé de composer avec l'occupant, mais tout en restant toujours sur ses gardes. On a eu malheureusement une victime en 1943, un jeune homme qui venait de Vambouthier et qui, lors du couvre-feu, était chez un ami et qui, sans se rendre compte, ou même peut-être par désinvolture, est sorti rapidement de chez lui et a couru vers l'endroit où il allait coucher. Et, aussitôt, il était aperçu par une patrouille allemande. Après les sommations d'usage, eh bien, il n'a pas répondu, il a continué sa course et là, ils ont tiré dessus. C'est un des éléments qui est à déplorer pendant l'occupation. Il y a eu aussi des jeunes qui ont bravé les soldats allemands à une certaine époque. Ils ont été tout de suite déportés sur le continent. Enfin, pas trop loin quand même, mais enfin, ça n'a jamais été des sanctions très grosses. Par contre, lorsque les services de renseignement ou la Gestapo était appelé à passer sur l'île-Dieu, faire des contrôles aussitôt. Alors là, il y avait des restrictions qui étaient imposées aux îlets. Immédiatement, ils renforçaient la garde, les consignes étaient beaucoup plus sévères, et puis il ne s'agissait pas de désobéir à l'occupant à l'époque.
La pêche était possible pendant l'occupation 39-45 sur l'île-Dieu?
La pêche n'a pas été facile, parce que d'abord, les Allemands étaient méfiants. Ils avaient mis un poste sur le quai du Canada, tout à fait en haut, et ils contrôlaient chaque bateau qui passait. Chaque bateau devait se déclarer en même temps la quantité d'essence qu'ils avaient, parce que je ne parle pas des bateaux à voile, mais les bateaux à moteur étaient obligés de déclarer la quantité d'essence, le nombre de personnes à bord, et puis le genre de pêche et le temps qu'ils désiraient passer. Et ça, c'était très suivi. Il y a des jours aussi où ils étaient interdits de passage parce qu'il y avait des questions stratégiques qui empêchaient les Allemands de laisser passer les Français. Et puis, ils avaient aussi la crainte de la fuite de jeunes gens vers l'Angleterre. Et heureusement, eh bien, malgré leur vigilance, eh bien, six jeunes gens ont réussi à partir à fond de cale sur l'Angleterre, prétextant une pêche. Ils étaient vraiment à fond de cale à ce moment-là. Les Allemands n'ont pas, ce jour-là, fouillé le bateau. Et puis, ils ont réussi à franchir les lignes et puis à rejoindre l'Angleterre quelques jours plus tard. D'autres îlets sont partis de La Rochelle. Et de même, à La Rochelle, ça a été amusant parce qu'ils étaient eux aussi à fond de cale. Et puis, en passant le chenal de La Rochelle, ils sont tombés en panne. Et puis, c'est un bateau de l'armée allemande qui était là, une vedette rapide, qui les a remorqués en leur souhaitant bon voyage. Ils ne se doutaient pas du tout que c'était des fugitifs qui s'en allaient sur l'Angleterre.
Beaucoup d'îlets sont partis au front durant cette guerre 39-45.
Ah oui, je ne peux pas te citer le nombre, mais je n'ai pas fait le nombre exact, je n'ai pas fait l'historique de la mobilisation de Lisieux, mais il y a quand même eu un certain nombre, moins que par Henri IV de 14.
Ça n'a rien à voir. À découvrir dans ce livre, les premières traces d'habitants sédentaires datent de quand sur Lisieux ? Est-ce que tu en parles dans ce livre ? C'est vrai qu'on parle, on passe du coq à l'âne aujourd'hui.
Oui, sédentaire, non. Il faut dire que c'est une histoire, une époque beaucoup plus récente, hein, parce qu'on a eu des passages de passages de visiteurs sur Lisieux, au paléolithique, ensuite au néolithique, et puis il a fallu seulement, à partir du 5e millénaire, 4e, 5e millénaire, on a commencé à voir les graveurs sur pierre, on a vu ceux qui étaient venus aussi, la deuxième fournée qui, elle, c'était des gens qui étaient plutôt, qui célébraient le culte de la mort. Alors d'où les dolmens, les menhirs, et parce que ils considéraient d'ailleurs que au-delà de l'horizon, et l'horizon sans fin, c'était le royaume des morts, des enfers, et c'est là que les âmes des défunts partaient, et là donc ils faisaient leur sépulture dans les dolmens. Et dirigé toujours face à l'océan. Mais c'est une des hypothèses. Il y en a d'autres aussi.
L'histoire des corbeaux par Artemidor, est-ce une légende, Maurice ? Ça m'a interpellé dans ce livre, Histoire de l'île-dieu.
C'est-à-dire, on la tient pour une légende, bien sûr. Mais enfin, elle est racontée. On suppose que c'est l'île-dieu, d'ailleurs, qui est en cause. Elle est racontée par un célèbre grec, Strabon, qu'il tenait lui-même d'un de ses voyageurs, un géographe Artemidor, qui était venu aux abords de la Loire et qui s'était aperçu que dans l'entourage de la Loire, il y avait un port qu'on appelait le port des deux corbeaux. Et tu sais qu'à l'époque, la configuration du terrain n'était pas du tout celle de nos jours. Hein. Certaines îles n'étaient pas des îles encore, d'autres étaient assez conformes, c'était presque des îles, mais on les considérait toujours d'abord comme des ports, en quelque sorte. Quand Strabon, quand le géographe est venu, Artemidor est venu dans ces lieux, il a vu que c'était un port, le port des deux corbeaux, et il raconte que dans cet endroit-là, eh bien, il y avait une coutume étrange, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un litige entre deux personnes, eh bien, on allait sur un rocher à la pointe, celle que l'on considère comme la pointe des corbeaux chez nous, et puis on mettait deux gâteaux représentant chacun des antagonistes, et puis au moment précis où les déposes étaient faites, tout le monde se retirait et on attendait l'arrivée des oiseaux, des fameux corbeaux qui étaient considérés comme étant les seuls dans ces endroits-là et qui faisaient la guerre à tous les autres congénères qui essayaient de s'approcher d'eux. Et ces deux corbeaux qui étaient vénérés par les habitants, eh bien, étaient en quelque sorte désignés par eux comme juges dans leurs différends. Alors les gens se retiraient et puis ils attendaient l'arrivée des corbeaux. Les corbeaux tournoyaient autour des gâteaux. Et puis, on dit que si les deux corbeaux fondaient sur la même part et dispersaient, donc la partie était gagnée pour le propriétaire de ce gâteau. Mais si chacun fondait sur une partie différente, sur un gâteau différent, eh bien, on partageait les torts. Une sorte de jugement à la Salomon.
Il y a plein de légendes, on l'a bien compris, sur l'île-dieu. Laquelle, oui, pour toi, est ta préférée ?
Il y a tellement de légendes, oui. Bon, celle des corbeaux, c'est celle qu'on raconte le plus, parce que c'est celle qui se rapproche à des écrits. Les autres, donc, c'est tout à fait différent. On parle aussi des fameuses prêtrèches, mais qui n'étaient pas sur l'île à ce moment-là. On pense qu'à cette époque, il y avait d'autres îlots qui ensuite ont été ensevelis par la montée des eaux. Là aussi, on n'a fait que monter et descendre au cours des générations. Et d'où le pont Dieu, par exemple, qui à une époque a été très visible, qui leur servait de passage. Mais il y a eu une montée des eaux qui a insularisé complètement l'île Dieu et le pont Dieu disparaissait sous les eaux. Et là aussi, on pense qu'il y a d'autres îlots qui étaient plus au sud, au large de l'île Dieu, et qui, paraît-il, auraient pu être le lieu de ces fameuses prêtresses. Et on a trouvé, la mer nous a ramené il y a quelques années, une sorte de chapiteau qui est arrivé par les tempêtes et qui est très curieux. Et auparavant, nous avions eu aussi d'autres éléments, des pierres gravées, où il y avait dessus des inscriptions assez curieuses, plutôt d'inscriptions romaines. Alors, tout ça s'est mélangé, des quantités de gens sont passés au large de l'île, ont laissé des traces, et quelquefois la mer nous en ramène. Et c'est à nous, quelquefois, d'essayer d'y apporter une date et une fixation dans le temps.
Toutes ces histoires sont à découvrir dans le livre de Maurice Hissel, Histoire de l'île Dieu. Maurice, on te retrouve en séance de signature à la Maison de la Presse.
Oui, j'ai quelques signatures à faire en août, en particulièrement où je serai présent au Salon du Livre, comme tous les autres auteurs.
Le samedi 3 août, à la Maison de la Presse, de 10h30 à 12h30, ainsi qu'au Salon du Livre, Une île des auteurs. C'est le 20 août prochain, à la place de la Pilée, Histoire oui. de l'île Dieu. Merci Maurice Hissel, c'est le nom de ce nouveau livre à découvrir en urgence pour tout savoir sur l'histoire de l'île Dieu. On peut dire que c'est une Bible, Maurice, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Non, je ne vais pas être prétentieux à ce point-là. Non, pas du tout, je reste modeste. Mais enfin, disons qu'il y a une première approche de l'histoire de l'île. Cette histoire, il fallait qu'elle soit écrite. Au XIXe siècle, différents visiteurs sont passés, ont fait des monographies, mais c'était assez sporadique, c'est pas très complet. Donc il a fallu s'atteler à cette tâche. Je ne suis pas le seul, bien sûr. Mais enfin, j'ai essayé de faire une histoire assez complète et surtout compréhensive parce que, qui soient moins connus des îlets, parce que les îlets ne connaissaient pas leurs histoires. Et petit à petit, par bribes, par différents articles, par des causeries, par ces livres-là, eh bien, on apprend aux îlets à connaître leur île, et en la connaissant, mais ils l'apprécient encore plus, et puis ils la racontent aux autres aussi. Et je pense que c'est une bonne chose, et en particulier pour les enfants, j'ai déjà fait des contacts dans les écoles, je crois que c'est important qu'ils apprennent bien sûr les matières générales, mais aussi il est important qu'ils connaissent l'histoire de leur île, ce qui s'est fait sur leur île. Quand je vais quelque part en vacances, j'ai rarement en vacances sur le continent, mais enfin, quand je vais quelque part en visite, eh bien, je cherche toujours à savoir quelle était l'origine de cette ville, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Eh bien,
ce que tu nous dis, qu'il faut être curieux.
Oui, oui, exactement.
Ben, ça sera le mot de la fin. Merci Maurice. On rappelle, Histoire de l'île Dieu est à découvrir. Et ce nouveau livre de Maurice Hissel est paru aux éditions La Geste. Merci Maurice. À très bientôt.
À très bientôt. Et merci encore.